Il y a quelques années, j'étais en vacances sur la Côte d'Azur et nous étions allés à un culte d'une église à Antibes, et la personne qui présidait ce culte avait raconté ce témoignage que je vous raconte maintenant. Il racontait le témoignage d'un jeune homme qui se sentait vraiment pas bien, qui était presque dépressif, et il s'est senti poussé, ce jeune homme, alors qu'il n'était pas nécessairement dans une famille qui avait la foi, lui-même non plus ne s'était pas forcément posé la question très sérieusement dans sa vie, mais il s'est senti poussé à aller à l'église ce jour-là. Alors il est rentré dans cette église, et puis il a assisté au culte, on l'a bien accueilli. Et après le culte, les deux personnes assez âgées qui étaient assises à côté de lui se sont intéressées à lui, lui ont posé des questions, et il a été très très touché par cet amour qui lui était ainsi témoigné, alors que c'était la première fois, ou quasiment une des premières fois, qu'il mettait les pieds dans l'église. Et cet amour l'a tellement touché qu'il est revenu le dimanche d'après, etc. Et la personne qui présidait le culte ce jour-là a dit « ce jeune homme, c'est moi aujourd'hui ». Je vous ai raconté en fait le témoignage de cette personne qui est maintenant ancien dans cette église à Antibes. Et tout a commencé parce qu'il a été accueilli chaleureusement dans une église un jour où il n'allait pas bien. Plus récemment, à l'église de Colmar, une dame qui est étrangère, qui a eu un parcours très très difficile dans sa vie, a aussi été très touchée par l'accueil qu'elle a reçu dans cette église. Et il y a quelques semaines à peine, cette dame s'est convertie. Dans ces deux témoignages, c'est à chaque fois l'accueil d'une personne qui a été déterminant pour son cheminement spirituel. Imaginons que dans ces deux situations, par exemple, l'accueil ait été glacial, il est probable que ces personnes n'auraient plus jamais remis les pieds dans une église. La vérité, c'est que nous n'avons qu'une seule chance pour donner une première impression. Et je vais maintenant vous donner un contre-témoignage. Là, je vous ai donné deux témoignages, des choses à imiter. Un contre-témoignage, j'avais un ami à moi il y a quelques années. On était dans une rencontre de jeunes, mais lui était assez nouveau dans ce groupe de jeunes. Et c'était la première fois qu'il rencontrait une fille qui s'appelait Christine. Et je me souviens encore, il était assis à côté de moi. Il voulait lui dire quelque chose. Et puis il m'a dit, mais comment elle s'appelle? Alors je lui dis, elle s'appelle Christine. Et la première phrase qu'il lui adresse, alors qu'il ne l'avait jamais vue de sa vie, c'était une phrase très, très maladroite. Il lui dit, Christine, tu chies dans la colle. Alors, c'est une expression que j'ai encore du mal à comprendre encore aujourd'hui. Regardez sur Google, ça veut dire tu dis n'importe quoi, tu es maladroite, alors que c'était lui qui l'était. Bon. C'est pas un compliment, ça c'est sûr. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la première impression ne fut pas bonne. Alors, heureusement, nous avons la faculté de passer sur certaines de ces indélicatesses. Quelquefois, ces indélicatesses peuvent friser le manque de respect. Je vous rassure, dans ce cas-là, la relation a tout de même pu être correcte par la suite. L'importance de l'accueil, la première impression que l'on donne. Chris Short, qui a été le pasteur d'une église qui est passée de 15 personnes qui se réunissaient dans un salon à 500 personnes en une vingtaine d'années, insistait toujours sur les 5 dernières minutes après le culte, en nous exhortant à aller vers une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu après le culte. Je vous invite maintenant à la lecture d'un texte de la Bible dans l'épître de Jacques au chapitre 2, les versets 1 à 13, et vous verrez le lien avec ces quelques témoignages. Donc Jacques chapitre 2, les versets 1 à 13. « Mes frères et sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. » Alors ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites, « Vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place. » Au pauvre, vous dites, « Toi, reste debout, ou bien assieds-toi là, par terre, à mes pieds. » Quand vous agissez ainsi, Est-ce que vous ne faites pas des différences entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez, mes frères et sœurs très aimés, est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous, vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase, qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Les livres saints disent « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est la loi du royaume, et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez, et la loi de Moïse vous condamne, parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit « Ne commets pas d'adultère », mais il a aussi dit « Ne tue personne ». Donc, par exemple, tu ne commets pas d'adultère, mais tu assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Alors, comment avez-vous été accueillis ce matin? Est-ce que les personnes venant de l'église Tabor se sont senties bien accueillies? Et celles qui viennent de la congrégation de l'armée du salut? Et comment avez-vous accueilli les autres? Avec quel regard, quelle parole, quel geste? Jacques, dans ce texte, nous parle d'un moment très concret, d'un cas très concret d'accueil auquel il a peut-être assisté, et qui semble en tout cas faire écho avec ce que vit cette église à laquelle l'apôtre écrit. Ce n'est pas simplement une question de politesse, ou de savoir vivre, l'enjeu est aussi spirituel dans l'Église. La gloire de Jésus-Christ est en jeu. Le premier verset, d'ailleurs, annonce le thème de toute cette section avec une formule pas forcément très facile à comprendre au premier abord. Mes frères et sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire, alors ne faites pas de différence entre les gens. Quel est le rapport entre la gloire de Jésus et le fait de ne pas faire de différence entre les gens? Dans le texte biblique en grec, en l'original, les deux idées sont encore plus entremêlées. On a ici une seule phrase avec une structure assez complexe. Et en fait, c'est la suite de l'argumentation de l'apôtre qui va nous aider à bien comprendre quel est l'enjeu. L'idée centrale, c'est de souligner qu'il y a une inconséquence grave dans l'Église à laquelle Jacques écrit. Il y a une contradiction entre la gloire de Jésus-Christ d'une part et l'honneur ou la gloire qui était donnée aux riches qu'on accueillait. Et ça, on le voit dans la suite des versets. Donner les places d'honneur aux riches et mépriser les pauvres, c'est agir à l'exact opposé de Dieu. Jacques le souligne, est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Cette idée était d'ailleurs déjà présente au premier chapitre de l'épître de Jacques, lorsqu'il dit « Le chrétien qui est pauvre et petit peut être fier parce que Dieu lui donne une place importante ». Le chrétien qui est riche doit être fier parce que Dieu le rend petit. C'était Jacques 1, versets 9 et 10. Or, l'attitude des chrétiens auxquels Jacques écrit est exactement l'inverse. Ils honorent les riches et méprisent les pauvres. Il y a donc un problème, un sérieux problème. Il n'est pas impossible que les chrétiens destinataires de l'épître était marqué par une sorte de théologie de la prospérité avant l'heure, où la richesse elle-même pouvait être perçue comme un signe de bénédiction, de la bénédiction de Dieu. Du coup, les riches méritaient les places d'honneur. Mais là, alors, on se retrouve aux antipodes de l'esprit du royaume de Dieu, pour lequel le modèle qui est sans arrêt mis en avant dans la parole n'est pas le riche, mais plutôt le pauvre, l'humble, le petit. C'est lui qu'il faudrait honorer. Le problème est donc théologique, mais aussi simplement logique. Jacques va le souligner, non sans ironie, en disant « Mais est-ce que finalement ce ne sont pas les riches qui vous traînent devant les tribunaux ? Est-ce que ce n'est pas les riches qui vous écrasent ? Et en retour, on voudrait les honorer ? Ça n'a pas de sens. » Peut-être aussi, il y avait quelque chose de plus insidieux, il voulait s'attirer les bonnes grâces de ces riches. Mais alors à quel prix ? Surtout si par la même occasion, ça les conduisait à mépriser ceux qui méritaient toute leur attention, les pauvres et les petits. Les destinataires de l'épître de Jacques ont tout faux et ils méritent donc d'être repris. C'est pour leur bien que l'apôtre prend sa plume et les reprend. Avec beaucoup d'affection, il leur dit « frères et sœurs très aimés ». Jacques donne un autre argument qui permet encore d'élargir le propos, c'est le favoritisme qui transgresse la loi royale dans certaines traductions. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », cette loi est dite royale parce qu'elle concerne le royaume de Dieu. On pourrait d'ailleurs même dire qu'il y a deux lois royales, celle de l'amour à Dieu, notre relation qui régit notre relation avec Dieu, et l'autre qui régit notre relation avec les autres. Et c'est bien ce que Jésus a dit dans un célèbre verset, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Ça, c'est la loi royale qui oriente notre relation à Dieu. Et puis, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », la loi royale, la loi du royaume, qui oriente notre relation aux autres. Et Jacques nous parle de cette deuxième dimension ici, parce que l'enjeu dans l'Église concerne les relations et l'accueil. Faire preuve de favoritisme, d'un accueil qui est partial, qui est plus basé sur des signes extérieurs de richesse, c'est contraire à l'amour du prochain. Parce qu'on se montre partial en faveur de quelqu'un, peut-être parce qu'on pense pouvoir en retirer un bénéfice, mais dans ce cas-là, c'est du calcul. Ou alors parce qu'en favorisant l'un, on va défavoriser l'autre, et cela n'est pas bon. On ne choisit pas son prochain. Je me souviens d'une question encore qui s'est posée il y a quelques jours à la convention de l'association baptiste. Quelqu'un disait « Mais finalement, mon prochain, c'est qui ?» Alors, on ne peut pas dire que c'est tout le monde, parce que dans la notion du prochain, il y a quand même c'est celui qui est proche. Mais ça peut être quand même n'importe qui, puisque le prochain peut être celui qu'on va rencontrer et qui, du coup, va devenir notre prochain. On ne choisit pas son prochain. On ne peut pas faire des catégories avec, d'un côté, les bons prochains qui sont aimables, honorables, et d'autre côté, les mauvais prochains que j'ai le droit d'ignorer ou de négliger. La preuve de cela, c'est que Jésus est lui-même allé jusqu'à dire que nous devions aimer nos ennemis. Alors on déborde largement l'accueil simplement du riche ou du pauvre. L'amour du prochain qui régit nos relations selon le royaume de Dieu exclut toute forme de partialité ou de favoritisme. Et dans ce texte, nous n'en avons qu'un exemple, celui des riches et des pauvres. En parlant aussi de la loi, Jacques souligne qu'il ne s'agit pas simplement d'une opinion, d'un choix optionnel, mais bel et bien d'un chemin obligé pour le croyant. Il nous parle d'une loi de liberté. Nous sommes libérés par Jésus-Christ, délivrés du poids d'une loi qu'il faudrait accomplir pour mériter notre salut. C'est une loi de liberté, mais ça n'en est pas moins ce que Dieu attend de nous. Et nous aurons des comptes à lui rendre à ce sujet. Et alors notre accueil. Si on réfléchit à ce texte, à sa pertinence pour nous aujourd'hui, comment il nous interpelle, nous devons nous interroger sur notre accueil, et en particulier en tant qu'Église. On peut s'interroger aussi sur notre accueil au niveau personnel, individuel. Et quand on parle de l'accueil en Église, on ne parle pas que du service accueil ou des personnes qui sont à l'accueil le dimanche matin, mais nous parlons de chacun d'entre nous. Comment accueillons-nous les autres ? De notre regard, notre attitude, nos paroles. Il y a sans doute aussi aujourd'hui des formes actuelle de favoritisme, voire de discrimination, des mauvais réflexes que nous devons apprendre à corriger. Je ne sais pas si ça se joue aujourd'hui entre les riches et les pauvres encore, quoique. Réservons-nous vraiment un même accueil à un SDF qui viendrait avec son baluchon et ses habits sales et à un jeune couple dynamique avec enfants ? Qu'en est-il pour un maghrébin qui rentre dans l'église, surtout s'il est barbu ? Et pour un couple d'homosexuels ? Jésus-Christ n'accueillait-il pas toutes et tous ? Et on le lui a reproché d'ailleurs. Il accueillait la femme adultère, les collecteurs d'impôts, la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et mise au ban de la société, les lépreux que tout le monde fuyait. Il n'accueillait pas seulement les bons prochains, respectables, ceux qui lui ressemblaient, il accueillait les pécheurs et les gens de mauvaise vie, si bien qu'on se moquait même de lui en lui disant « il est l'ami des pécheurs ». Et c'est vrai, il est l'ami des pécheurs. Ce que ces gens disaient en se moquant de lui est vrai, et c'est même quelque chose de beau. Il n'hésitait pas à les honorer et pouvait même donner leur foi en exemple. N'a-t-il pas dit aux chefs religieux que les collecteurs d'impôts et les prostituées les devanceraient dans le royaume de Dieu ? Matthieu chapitre 21, verset 31. Or, l'accueil dans l'Église n'est pas qu'une question de savoir-vivre. Il doit être comme un véritable geste prophétique et lorsque nous accueillons notre prochain tel qu'il est, nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à accueillir comme lui nous a accueillis, d'un accueil qui témoigne de notre amour pour le prochain, et ça doit rester vrai aujourd'hui. L'accueil, c'est notre responsabilité à tous, je le soulignais déjà il y a quelques instants. Il commence dans le regard que nous portons les uns sur les autres. Et même si nous ne pouvons pas, comme Dieu seul peut, regarder au cœur des personnes, ne tombons pas dans le piège des apparences. Cherchons à accueillir vraiment, sans a priori, avec les yeux de la foi, de l'amour, de l'espérance. Amen.